Midi 10 à Paris, fin de ce journal dans un instant.
Merci beaucoup RFI pour ce journal Midi 10 également à Bordeaux. Vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes. Et aujourd'hui, on s'intéresse à deux sujets. D'abord, le secteur de l'informatique qui n'est pas réputé pour ses grèves. Et pourtant, des informaticiens de CGI au Haillan ont mené 10 semaines de grève en ce début d'année. Ils nous racontent comment tout ça s'est passé. Et puis, témoignage d'un humanitaire girondin qui était présent à Gaza en février dernier, qui a été recueilli par Jeff Mekel. On commence avec d'autres infos. Et toi, Xavier, salut.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Safran Céramique s'est bel et bien condamné.
Oui, pour homicide involontaire et blessure involontaire. Ainsi en a décidé hier la cour d'appel de Bordeaux, confirmant ainsi la condamnation du tribunal correctionnel d'une affaire datant de plus de 10 ans. Le 5 décembre 2013, dans la poudrerie de l'usine baptisée alors Safran Héraclès de Saint-Médard-en-Jal, une opération de nettoyage tourne au drame. Le propergol, poudre hautement inflammable, s'embrase à plus de 4000 degrés. Trois ouvriers sont grièvement blessés, dont Benjamin Payet, 25 ans, brûlé à 90%, qui décède dans les heures qui suivent. La Cour, dans son jugement rendu hier, estime que la société a dégradé les conditions de sécurité des salariés. Safran est donc condamné à 250 000 euros d'amende et également 10 000 euros pour les parties civiles, dont le syndicat Sud. Un soulagement, comme on peut, en tout cas pour la famille qui l'a indiqué à la sortie de cette audience. Les blessés également se disent soulagée par le résultat de cette audience et l'entreprise a quant à elle 5 jours pour décider de son pourvoi en cassation.
On parle désormais d'un pillage aérien.
Oui, avec Ryanair qui quitte l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Ce sera effectif dès novembre prochain avec la fin de 49 destinations. La compagnie irlandaise se serait montrée trop gourmande et aurait fait ainsi échouer ses négociations avec l'aéroport. Intéressante réaction du syndicat des personnels navigants SNPNC-FO. Celui-ci rappelle que Ryanair quitte Bordeaux après s'être bien gavé, c'est là où on parle pillage. Donc une analyse partagée d'ailleurs en d'autres termes par la Cour des comptes dans un récent rapport. Le syndicat dénonce celui des aides financières faramineuses et puis, je le cite toujours, la compagnie pirate s'en va piller vers d'autres cieux. Fin de citation. Le syndicat qui demande par ailleurs l'ouverture d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 90 emplois sont concernés. Ryanair pourrait proposer des postes, mais dans d'autres bases. L'aéroport de Bordeaux tente de rassurer que les destinations lâchées par Ryanair seront quant à elles reprises par d'autres compagnies, ce qui n'est pas forcément là une bonne nouvelle en termes écologiques.
Un mot également sur les prisons.
Oui, avec notamment l'analyse portée par L'Envolée, la revue et l'émission de radio contre toutes les prisons. On rappelle que l'appel unitaire hier des syndicats à une journée dite prison morte veut dire concrètement un blocage de toutes les prisons du pays. Autrement dit, L'Envolée indique et précise que toutes les sorties des cellules pour raisons judiciaires mais aussi pour raisons médicales, pour les parloirs, les activités ou encore plus simplement pour les promenades sont empêchées. Ainsi, 80 000 personnes sont confinées, rappelle la revue. Il ne faut pas l'oublier, en effet. Ce mouvement de contestation des surveillants de prison fait suite à la mort de deux des leurs, vous le savez, lors de l'évasion du fourgon pénitentiaire d'Incarville. On termine en vous signalant que dès demain s'ouvrent deux événements dont nous sommes partenaires. Le Congrès national de la Ligue des droits de l'homme qui commencera avec un débat du côté de la Halle des Douves et une question, sommes-nous toujours en démocratie? Ce sera à partir de 19h. La clé des ondes sera d'ailleurs présent ce samedi sur le village associatif de ce congrès, place de la Victoire, samedi donc de 10h à 18h. Et puis un autre rendez-vous dont on est partenaire, encore un peu plus convivial et festif, le marché portugais de Senon. C'est jusqu'à dimanche, ça s'ouvre demain soir au domaine du Loret. 25 000 personnes attendues hein, quand même sur ces 3 jours. On verra si la météo orageuse nuira à ce rendez-vous annuel, marqué cette année aussi par la célébration de la révolution des œillets il y a 50 ans. Enfin, un dernier mot, vous le savez quand c'est moi qui présente le journal. On finit toujours là-dessus de football. Dernier match de la saison pour les Girondins de Bordeaux demain à 20h45. Les Marinés Blancs reçoivent Pau pour clôturer leur saison de foot en Ligue 2 bien poussive. Ils sont actuellement 13e et surtout aussi ne savent pas comment leur budget sera bouclé en vue de la saison prochaine. Il manque toujours 50 millions d'euros pour passer devant le gendarme financier du foot, la DNCG, le 13 juin prochain.
Merci beaucoup Xavier, et je rajoute un mot à l'agenda. Demain, ce sera aussi la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et en cette période de stigmatisation et de violence contre les personnes trans, les rassemblements qui auront lieu demain sont particulièrement importants. À Bordeaux, le planning familial, l'asso Mauve, le collectif Queer Racisé et Trans 3.0 appellent à se réunir demain donc à partir de 19h sur le parvis des droits humains. Midi 15 sur la clé des ondes, c'est le plat de résistance. Alors vous ne connaissez sans doute pas l'entreprise CGI, c'est ce qu'on appelle une ESN, une entreprise de services du numérique qui intervient en tant que prestataire auprès d'autres entreprises pour faire évoluer des logiciels ou des sites internet. Cette entreprise, elle a été fondée au Canada, elle est aujourd'hui présente dans 40 pays et 90 000 personnes travaillent pour elle. Près de chez nous, c'est au Hayan qu'elle est présente et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que des salariés de CGI sont restés en grève pendant 10 semaines en ce début d'année. C'est Léa Perron qui est allée à leur rencontre, qui a rencontré deux d'entre eux, Étienne et Eddy, qui vivaient là leur toute première grève et qui nous racontent cette mobilisation. Léa leur a d'abord demandé d'expliquer le projet Meta 4 sur lequel ils travaillent à CGI.
Alors Metacas, c'est le nom de notre projet. C'est donc, on est une petite structure de 8 personnes au début de la grève. On s'occupe du calcul de retraite pour la Caisse des dépôts et consignations. Et donc on était surtout sur un gros projet de récupération de ce qu'on appelle le SRE, c'est le service de retraite d'État qu'on est en train d'intégrer au système de la Caisse des dépôts.
Et donc là vous êtes, vous avez arrêté la grève là pour le moment, mais vous vous êtes mis en grève le 26 février 2024, pourquoi ?
Alors un autre ancien collègue et donc qui a quitté la boîte a été réembauché en tant que prestataire auprès de chez nous pour une mission de 50 jours et donc il a négocié auprès de CGI une prime de 1 500 euros, alors que nous ça fait plusieurs années qu'on dit qu'on est mal rémunéré par rapport à notre à ce qu'on fait, par rapport à notre travail, mais donc on a trouvé ça très injuste. En plus on avait des conditions de travail très compliquées parce qu'on était en sous-effectif. Les effectifs allaient arriver donc en même temps que ce prestataire, mais avec d'autres gens aussi. Mais on s'est dit, mais qui allaient être mieux rémunérés que nous, en nous expliquant que c'était leur parcours, qu'ils avaient déjà travaillé sur cette technologie, alors que nous, ça fait un an et 5 ans qu'on est sur ce projet-là et qu'on a des rémunérations basses, autour de 30 000 euros annuels.
Et donc ça, comment est-ce que vous l'avez reçu et comment est-ce que vous avez décidé aussi collectivement de vous mettre en grève ?
Eh bien en fait, on était tous choqués et énervés individuellement et quand on a commencé à en parler entre nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et quand on a réfléchi, on fait qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien on s'est dit on peut faire que la grève. Et donc c'est comme ça qu'on a mis un préavis de grève la semaine d'avant. Où d'ailleurs notre directeur est venu nous voir pour nous dire qu'est-ce que c'était que ce bazar et que pourtant il avait fait beaucoup d'efforts pour nous, notamment des recrutements qui commençaient à arriver, ce genre de choses, et que qu'il nous trouvait ingrat en fait de se mettre en grève, mais qu'on lui a expliqué que nous on trouvait ça injuste et insultant que quelqu'un qui parte récupère une prime de 1 500 euros alors que nous qui sommes là toute l'année on n'a rien du tout. Et ça, ils ont été plutôt choqués d'apprendre qu'on trouvait ça injuste. Et qu'ils ont essayé de nous dire, non, reprenez le travail avec peut-être une augmentation ou une prime qui arriverait, mais sans vouloir explicitement le mettre par écrit. Donc, on n'a pas voulu croire juste à de vaines promesses, mais on voulait quelque chose de concret.
Pour comprendre, au début, c'est tous les salariés du projet Meta 4 qui se sont mis en grève.
Alors on a été 6 signataires parce que sur notre projet nous sommes 6 CDI et 2 alternants. Donc tous les CDI ont signé le préavis de grève. Ensuite il y en a un qui au final n'a pas fait de grève, mais ensuite les autres sont tenus 10 jours avec nous avant de reprendre le travail. Et ensuite on est resté à 3 pendant 8 semaines à faire grève et à faire donc du coup des actions auprès de nos collègues et de notre client à la CDC.
Vous m'en parlez un peu de la réaction de la direction, mais est-ce que concrètement vous avez eu un temps de dialogue, d'échange avec elle ? Est-ce qu'il y a des négociations qui ont été entamées ?
Alors il n'y a pas eu de négociations à proprement parler, mais on a eu plusieurs rendez-vous avec eux, notamment le premier jour où on a mis en place notre grève, donc où la direction est venue nous voir pour nous demander de ne pas commencer notre grève. Et en nous proposant leur marché, c'était donc de nous proposer de changer de projet ou alors de faire des entretiens professionnels pour Donc ça sert à prévoir à moyen terme ce qu'on veut faire au sein de l'entreprise. Et donc des entretiens individuels de fin d'année, mais qui est une obligation légale. Donc ils nous ont rien promis de ce qu'ils en fait, pouvaient déjà nous offrir. Donc on a dit non. Eux, ils ont refusé catégoriquement de parler d'augmentation collective. Ça, c'était vraiment le terme qu'ils ne voulaient pas entendre, c'était le mot collectif. Ils voulaient bien parler de rémunération, enfin d'augmentation individuelle, mais on avait peur que ça soit trop inégal ou que personne n'ait quelque chose, donc on a préféré refuser ce genre de discussion.
Et donc ça, c'était au début de la grève. Comment est-ce que ça s'est poursuivi, les discussions ou non avec la direction? Comment est-ce qu'elle a continué cette grève?
Alors donc nous, on a continué, on a commencé en début à rester plutôt discret. On ne voulait pas étendre notre grève à d'autres projets ou autres. Donc on a commencé donc à occuper notre plateau. Mais il y avait très peu de réactions du côté de la direction. C'est à partir de là qu'on s'est dit qu'il fallait commencer à faire des actions. Donc on a commencé à faire des tractations auprès de nos collègues. Et ensuite, une première fois, d'aller voir la Caisse des dépôts pour leur signifier que des prestataires chez eux étaient en grève.
Et est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu le lien que vous avez avec la Caisse des dépôts?
C'est notre donneur d'ordre, c'est notre client. On maintient pour eux un logiciel, Meta 4. Et donc, du coup, le fait d'arrêter notre activité chez eux a allé les impacter. Donc, c'était aussi les prévenir qu'il y avait un problème chez eux.
Et donc, vous avez reçu du soutien, justement, des collègues de la Caisse des dépôts? Comment ça s'est passé?
On a beaucoup discuté avec les gens qui sont à la Caisse des dépôts. On avait commencé aussi, du coup, à mettre en place une pétition où une trentaine, je crois, de personnes de la Caisse des dépôts ont signé. Et aussi, discuté. On a eu des personnes du CSE de la Caisse des dépôts qui nous ont posé des questions pour ce qu'ils avaient bientôt une réunion de CSE. Mais on a eu très peu de suite de ce côté-là, de leur part.
Et donc, tout à l'heure, vous parliez de répercussions de la part de direction, de courrier de menaces. Est-ce que vous pouvez m'en parler?
Alors oui, donc ça c'est la deuxième, après qu'on soit allé une deuxième fois à la Caisse des dépôts, où on a pu du coup rencontrer la CGT de la Caisse des dépôts, qui nous ont présenté leur soutien et qui ont mené des actions auprès de leur direction pour essayer de mettre la pression auprès de la Caisse des dépôts pour que la direction de la Caisse des dépôts mette ensuite la pression auprès de notre direction. Et donc on a reçu un courrier qui nous intimant de reprendre le travail. Et aussi que nos actions actuelles pouvaient porter préjudice à certains employés de CGI, puisque on dénonçait des actions de notre direction, sans jamais nommer, mais les personnes ciblées se reconnaissaient et disaient que c'était du harcèlement moral, ce genre de choses, et donc nous ont sous-entendait qu'ils allaient nous poursuivre si on continuait des actions de ce genre, comme aussi aller voir le client de la Caisse des dépôts qui pouvait être préjudiciable pour la santé économique de CGI.
Comment vous l'avez reçu, ce courrier et ces menaces? Quel impact ça a eu?
On a été très surpris et ensuite inquiets, puisque être poursuivi pénalement pour diffamation et harcèlement moral, c'est pas quelque chose qui fait très plaisir à lire. Mais on savait qu'on avait fait attention justement à ne jamais nommer directement les gens, à décrire des situations, et ou alors quand on mettait de l'interprétation, on parlait de ressentiments, donc qui ne sont pas des choses attaquables juridiquement. Et donc le service juridique de la CGT nous a aidé là-dessus et nous a dit que on était en sécurité par rapport à tout ce qu'on avait pu diffuser auprès de la Caisse des dépôts comme de CGI.
Pour revenir un petit peu, donc vous, Étienne, ça fait 6 ans que vous êtes à CGI. Plus précisément, c'est quoi vos conditions de travail? Une journée, comment ça s'organise?
Nos conditions de travail, ça va dépendre un peu des projets, mais sur notre projet, on était plutôt bien loti pendant un moment, puisqu'on était une toute petite équipe, donc c'était très horizontal. On avait beaucoup de liberté et de latitude sur nos activités. Mais avec donc le projet qui arrivait avec la Caisse des dépôts, on a été souvent submergé par le travail, et donc on demandait régulièrement des recrutements qui tardait à arriver, avec des gens des fois qui ne voulaient pas rester, donc les gens repartaient. Parce qu'il y avait aussi un problème donc, de sélection des candidats. Et donc du coup, voilà, c'était régulier. On avait des surcharges de travail, ça allait mieux. Des gens voulaient quitter le projet. On disait on va attendre que la charge de travail diminue pour vous partiez, sauf que la charge n'a fait qu'augmenter pendant 3 ans. Donc c'est des gens qui sont restés coincés 2 ans sur le projet parce que la direction refusait d'investir des gens sur notre projet. Donc c'est quand même au bout d'un moment ils ont réussi à partir, mais on s'est retrouvé avec du coup une équipe plutôt jeune sur le projet et des difficultés donc du coup sur la charge de travail et toujours avec un manque d'effectifs croissant.
Psychologiquement, comment elle est vécue cette cadence par l'équipe ?
On est une équipe très solidaire, donc on se soutient les uns les autres. Quand quelqu'un se sent pas bien, il y a toujours quelqu'un qui va venir le voir, le soutenir, des fois un peu lui alléger son travail. En se serrant les coudes et en étant très peu soutenu par notre direction.
Et donc là, par exemple, vous demandez à ce que CGI recrute combien de personnes et concernant les augmentations salariales aussi, est-ce que vous pouvez m'en parler ? C'est quoi vos demandes ?
Mais on s'est basé sur la prime que notre ancien collègue a eue pour revenir travailler 50 jours sur notre projet. Donc il y avait 1 500 € de prime pour 50 jours. Donc nous, on a demandé 7 500 € bruts annuels d'augmentation pour l'équipe. Ce qui donc n'a pas été fait. Et ensuite, sur le recrutement, il nous manquait 1 à 2 personnes. Et pendant notre grève, ils ont recruté 6 personnes. Donc ils ont doublé les effectifs, en partie aussi pour pallier aux personnes grévistes. Et donc maintenant qu'on revient, nous sommes 15 sur l'équipe et ils parlent déjà de supprimer certaines personnes recrutées sur le projet.
L'idée, c'est de discuter de la grève et de ce qu'elle a apporté quand même. Parce que 10 semaines de grève, c'est pas rien. Il y a ce qu'ont vécu les grévistes et puis il y a toute la solidarité autour. Et il y a la façon dont les collègues l'ont pris. Hein, voilà. Et ce qu'on peut dire déjà, ce que la grève elle a montré, c'est que ce qui est jamais possible chez nous, c'est devenu possible très vite. Hein, il a suffi que 6 collègues se mettent en grève pour que... les salaires doublent, les effectifs doublent, les salaires, on est encore là. Hein, on n'a jamais de monde sur les projets quand on réclame tout ça, il faut toujours courir, il n'y a jamais de monde. Là, en quelques jours, ils seront passés de 8 à 15, je crois, tu disais, Étienne. Les salariés qui les ont remplacés, ils sont mieux payés que les collègues qui étaient en grève. Hein, c'est-à-dire que si on regarde pour les salariés, c'était quand même mieux, leur situation elle était meilleure. Et puis les délais, il n'y en avait plus. Alors il faut toujours courir, il faut toujours livrer dans les temps, il faut faire des heures sup pour livrer, non payé bien sûr. Puis là, d'un coup d'un seul, là, comme par magie, vu qu'il y avait la grève, les délais c'était plus grave. Ce que la grève elle a montré, c'est que ne pas staffer, comme ils disent, des gens sur les projets quand il y a besoin, c'est une volonté politique de la direction. Que ne pas augmenter les salaires, c'est une volonté politique de la direction. Que nous faire courir en permanence, c'est une volonté politique de la direction. Que les moyens, en réalité, quand on leur tord un peu le bras, elle les trouve, elle les a.
Quand est-ce que vous avez repris et qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre le travail ?
Ce qui nous a poussé à reprendre le travail, c'est le manque d'intermédiaires. Comme on n'arrivait pas à discuter avec la direction, on voulait avoir des médiations. Donc d'abord en interne par le CSE, où la direction a refusé que le CSE se mette en médiation sur notre grève. Et ensuite on est allé voir aussi l'inspection du travail, qui nous a annoncé que sur notre secteur, il n'y avait aucun inspecteur du travail qui était mis sur ce poste, et que ça allait être très compliqué de pouvoir avoir une médiation de la part de l'inspection du travail. Mais juste avant qu'on arrête notre grève, la direction avait accepté enfin que le CSE fasse une médiation, mais ça commençait à être très long, donc on a préféré reprendre le travail.
Vous êtes resté en grève pendant une dizaine de semaines, c'est ça ?
Pendant 10 semaines, oui.
Pendant 10 semaines, comment ça s'est passé pour vous, ces 10 semaines de grève ? Quel impact financier ça a eu pour vous aussi et quelles conséquences sur votre vie ?
Ça va faire donc du coup 2 mois de salaire, enfin 2 mois de salaire à zéro. Donc ça va être compliqué. Mais heureusement, on a eu la solidarité des collègues on a monté une caisse de grève. Donc ça va nous permettre de payer les factures pendant les 2 mois. Mais ça va être 2 mois difficiles qui sont en train d'arriver.
Mais vous avez tenu 10 semaines quand même, alors que c'était votre première grève. C'était quoi l'importance pour vous de toute cette grève ?
Il y avait un côté de fierté, parce que on se sent très insulté, voire humilié, quand quelqu'un avec qui on a travaillé pendant un moment se voit offrir comme ça beaucoup d'argent, alors qu'on sait tous qu'on a des problèmes d'argent de temps en temps. On a un collègue qui a mis 1 an à trouver un logement parce que son salaire était trop bas et qu'il n'avait pas de garant. Voilà, c'était des problématiques qu'on avait un peu régulièrement. Après, voilà, sur 10 semaines, ça n'aboutir à rien, c'est frustrant. Mais après, continuer en sachant pas où ça pouvait aller, puisqu'on n'avait plus de soutien autour de nous, enfin, de soutien pour la médiation. Donc, on a préféré reprendre le travail en commençant par une semaine de vacances.
Donc il y a un sentiment d'injustice aussi que vous dénoncez dans un de vos communiqués, notamment vis-à-vis des profits récents de l'entreprise CGI, avec un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros en 2023.
Oui, ça, mais ça c'est quelque chose qui est régulier à CGI. Ça fait plusieurs années qu'on demande qu'il n'y ait plus de salaire en dessous de 2000 euros net, parce qu'on... On est quand même tous soit des techniciens en informatique ou alors des ingénieurs. Et donc, on a des statuts qui, normalement, devraient nous permettre d'être plutôt bien rémunérés. Mais les sociétés de services font une grosse partie de leur marge sur nos salaires. Donc, les résultats de CGI sont en partie du fait que les employés sont mal payés. Mais et du coup, oui, il y a cette grande dichotomie où ils nous disent d'un côté, c'est très bien ce que vous faites, on a besoin de vous, mais il n'y a pas de suivi de salaire. Et en même temps, il y a à côté, sur les actionnaires et sur nos dirigeants, il y a des grosses retombées économiques que nous on n'a pas.
Donc c'est la première grève qu'il y a eu dans votre secteur. Est-ce qu'elle a changé quelque chose ? Vous dites que ça a changé un peu l'ambiance de l'entreprise. Vous pouvez m'en parler ?
Oui, ça a un peu changé l'ambiance de l'entreprise. Parce que quand on est venu aller voir les collègues, on s'est rendu compte que des problématiques qui étaient sur notre projet sont générales, notamment la surcharge de travail, ce genre de choses, et les mauvaises rémunérations. Mais que les gens, ouais, c'est là-dessus d'ailleurs que joue CGI, c'est sur l'individualisation des personnes. Ils veulent jamais parler de collectif. D'ailleurs, on n'est pas des salariés à CGI, on est des membres. Voilà, il y a vraiment ce côté où ils veulent individualiser toutes les actions. Mais par contre, les profits, ce genre de choses, ça retombe jamais sur les projets. Donc les gens... Il y a un proverbe qui dit, un proverbe en informatique, c'est quand on est dans une société de services, on fait son salaire en entrant. Si on veut un meilleur salaire, il faut changer de boîte. Et ça, c'est pas normal. Que si on fait du bon travail, on devrait avoir les rémunérations qui suivent en même temps que nos montées en compétences.
Est-ce que vous envisagez peut-être une suite à ces mobilisations, à ce mouvement ? Comment ça va se passer la reprise ?
Mais là, on va reprendre donc doucement au sein de notre équipe. Après, pour la suite, au sein de notre projet, je pense que ça va pas continuer. Mais ce qu'on espère, c'est que à l'avenir, quand des colères vont monter, on arrivera à s'organiser et que ça soit pas que un seul projet qui s'arrête, mais que ça soit un peu toute la boîte qui se mette en action. C'est ce qui nous a manqué au final sur la fin. Et donc, on espère que ça va, que les collègues qui se sont sentis impliqués et qui nous ont soutenus, bougeront à leur tour pour se battre pour leurs droits.
Donc, bonjour, je m'appelle Eddy. Je suis à CGI depuis 2 ans en tant que développeur. J'aimerais ajouter le fait que, justement, comme mon collègue le dit, la grève, on n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait parce qu'on était, on n'était pas assez. Et... ça serait bien justement que cette, je dirais, colère ou pas, ça dépend de chacun, mais que cette situation ne s'empire pas dans le monde de l'informatique en général, même dans d'autres milieux, et que les gens commencent à se rendre compte que ça va pas aller de mieux en mieux, bien au contraire, et qu'il faudrait justement se prémunir de ça et foncer tous, que ça soit en grève ou en faisant d'autres actions, pour permettre d'aller de l'avant et que les gens soient bien rémunérés au final. Que les gens commencent à réellement vivre au lieu de survivre constamment.
Donc là, parce qu'il y a eu des grèves à CGI, il y a eu des grèves à Ubisoft aussi assez récemment. Vous discutez avec d'autres collègues aussi, peut-être, qui travaillent dans le secteur informatique. C'est les mêmes problématiques partout de surcharge de travail.
Oui, exactement. C'est ce qu'on a remarqué. C'est un problème qui est récurrent dans toutes les boîtes informatiques. Mais étrangement, les gens ne veulent pas aller en grève, ne veulent pas prendre d'action contre ça, malgré le fait de se sentir mal et de se sentir tout le temps mal payé. Ils vont souvent aller vers d'autres, quitter leur entreprise pour aller vers une autre entreprise pour augmenter leur salaire.
Et alors, pourquoi, à votre avis, ils se mettent pas en grève ? Enfin, pourquoi le secteur de l'informatique, c'est un secteur qui se met peu en grève ?
Je pense parce que c'est un secteur qui est assez récent. Donc les gens n'ont pas cette expérience d'autres secteurs plus anciens, comme le BTP par exemple. Même si, structurellement parlant, c'est à peu près la même chose, que ce soit du BTP ou de l'informatique. C'est un problème qui vient aussi du fait que les gens ont fait de longues études, du coup ils pensent que ça va s'arranger avec le temps. Et c'est aussi dû au fait que les gens sont... Enfin, il y a toujours un renouvellement des salariés. Il y a toujours un renouvellement des salariés qui fait que les gens n'ont pas le temps de faire une cohésion pour pouvoir lutter contre ces problèmes-là.
Je voudrais ajouter quelque chose sur pourquoi en informatique ça bouge très peu. C'est que, donc oui, comme disait Eddy, c'est un secteur qui est très jeune. Et qui aussi a encore cette aura qu'il y avait dans les années 80-70, où en informatique, il y a un peu l'image du self-made, où on peut devenir très riche rapidement. Et alors qu'aujourd'hui, c'est du salariat, et aujourd'hui, moi j'ai très bien vu ça en arrivant à CGI, où on était presque dans des conditions d'ouvriers, où on faisait des tâches répétitives en permanence, et qu'au final... Il y a en informatique, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle, qui ont fait des études scientifiques et qui arrivent du coup en informatique parce qu'ils ne trouvent pas d'activité dans leur filière. Et donc ça va précariser énormément tous les travailleurs en informatique parce qu'il y a toute une main-d'œuvre qui est en train d'arriver sur le marché et donc ça va faire baisser les prix vers le bas.
Voilà, c'était Étienne et Eddy au micro de Léa Perron. Étienne et Eddy qui sont tous deux salariés de l'entreprise CGI au Hayan. Et puis on a entendu aussi des extraits de prise de parole de Arnaud Guilleneuf, qui est le délégué syndical CGT de cette entreprise CGI.
Nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles.
Alors, c'est ce qu'on appelle un problème technique. La chanson de Resaca Sonora s'est lancée, mais s'est interrompue On va essayer de retrouver ça. C'était pour vous dire que tout à l'heure dans le journal, on vous parlait du dernier match des Girondins de Bordeaux demain. Xavier a oublié de vous parler de l'essentiel, c'est qu'après le match, le COP Ultramarine prévoit un concert contre la répression. Ce sera de 23h30 à 6h du matin, donc concert nocturne. Et ça se passera à la Casa Ultra. Casa Ultra, 26 rue Édouard Faure. C'est au niveau de l'arrêt Berge de Garonne du tram B. Donc de 23h30 à 6h avec notamment le groupe Rezaka Sonora. L'entrée, c'est 10 €. Voilà, au profit, on imagine, des supporters qui en feront sans doute un très bon usage. Voilà, et l'idée, c'est de terminer tous ensemble cette triste saison en beauté. Voilà le programme. J'essaye entre-temps de retrouver cette chanson, mais je crois qu'on ne va pas l'avoir. Ou alors, on va essayer d'en passer une autre. Peut-être qu'elle marchera mieux. On va essayer avec celle-ci. Rezaka Sonora. Voilà, malheureusement, on va devoir couper cette chanson pour enchaîner, pas prendre trop de retard. On vous rappelle donc le concert de fin de saison, concert organisé par les Ultramarines à la Casa Ultra, 26 rue Édouard Faure, demain soir, après le match des Girondins. On va parler maintenant d'humanitaire et de la situation aussi à Gaza avec Émilien alias Milou Grenier qui vit dans sa ferme de l'Entre-deux-Mers quand il n'est pas en mission humanitaire pour l'une ou l'autre des ONG pour lesquelles il travaille en Haïti, en Syrie ou en Afrique au temps de l'épidémie Ebola. En février dernier, il a passé donc 3 semaines à Gaza pour Médecins Sans Frontières et c'est Jean-François Mekel qui l'a rencontré il y a quelques jours. On vous propose d'écouter tout de suite cette discussion entre eux.
Je me suis formé en logistique humanitaire, c'était une licence professionnelle à l'époque, à Bioforce, donc une école privée dans la banlieue lyonnaise, à Vénissieux. Donc ça c'était de 2007-2013, je suis parti directement après sur le terrain avec Médecins Sans Frontières, en tant que logisticien, donc c'est ceux qui s'occupent de toutes les fonctions support, si tu veux, sur une mission, pour accompagner les médecins et le personnel médical à fonctionner, que ce soit... gestion électrique, l'eau potable, l'électricité, les achats, enfin tout, voilà, tout. Et j'ai fait ça pendant 5 ans dans des missions d'urgence, donc Haïti, voilà, pas mal de missions. Et après, je me suis spécialisé, donc je suis retourné sur les bancs de l'école à Bordeaux avec un master en sciences politiques en gestion des risques dans les pays du Sud. En 2015, en VAP, donc je suis rentré directement en master. Pour avoir un M2, un Master 2. Et ça, c'était dans l'idée de me spécialiser dans le militaire, ce qu'on appelle sur la gestion des risques ou sur ce qu'on appelle les références sécurité. Et donc, après ça, j'ai été sur un poste plus pour Médecins Sans Frontières, qui n'a pas de poste sécurité à proprement parler sur le terrain. Ça tombe sous la responsabilité du coordinateur de projet. Mais je suis parti pour Handicap International, Action contre la faim, d'autres ONG, sur des postes vraiment sécurité, où là, je fais des analyses de risques, où je vais rencontrer les autorités locales ou les groupes armés si on peut rencontrer avec eux, ouvrir l'accès humanitaire, ce qu'on appelle négocier pour l'ONG, pour qu'on puisse faire notre travail et puis former les équipes sur le terrain, que ce soit nos collègues expatriés et nos collègues aussi nationaux qui sont les plus touchés dans ce genre de catastrophe humanitaire, sur comment réagir face à un kidnapping, un bombardement, enfin, voilà, vraiment tout ce qui est sur l'analyse de risque et comment réduire ces risques.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à travailler dans l'humanitaire comme ça? Parce que c'est pas banal.
C'est pas banal. Quand on est dedans, il y a quand même beaucoup. C'est un grand monde. Mais c'est vrai que je sais pas. Honnêtement, ça a été l'envie d'aider. Le besoin, je pense, profond, c'était de mettre du sens. On va être honnête sur mettre du sens à ce que je faisais. Donc c'est pour ça que j'ai commencé médecine à Bordeaux avec pas beaucoup de résultats. Mais je voulais faire médecin humanitaire. Et j'aimais aussi le côté, on va dire, voyage. J'ai jamais été un grand voyageur, mais quand j'ai commencé à voyager. Justement après médecine, je suis parti sur un coup de tête voyager et puis je me suis dit c'est ça que je veux faire quoi. C'est vraiment l'humanitaire, voyager, rencontrer d'autres cultures, me confronter à l'autre. C'est vraiment ça qui a inspiré mes envies.
Alors on reviendra sur ta dernière mission qui était à Gaza, mais sinon précédemment, quelles sont les missions les plus compliquées, les plus ou qui te restent en mémoire le plus fortement?
Comme je t'ai dit, il y en a plusieurs, pas mal. Mais c'est ça, cette vie-là. Je reviens, tu vois, d'une conférence gesticulée. Donc je pourrais te parler aussi d'une de mes meilleures amies avec qui que j'ai rencontré en Ebola, qui fait « Je ne suis plus un héros humanitaire », une enquête sur la ruche humanitaire. Elle appelle ça, que je suis allé voir là au Pays Basque. Et c'était ça, elle parle, elle, de l'addiction. On repart parce qu'il y a aussi ce côté où on aime aider.
Et il y a addiction.
L'addiction, ouais, c'est ça. Oui. Et il y a aussi ce côté parce qu'on a des vies là-bas qui sont à 100 000. On voit des choses, on a vraiment être... on est au cœur de l'action. Donc, elle parle beaucoup d'Ebola. Et c'est là où on s'est rendu. Et je t'ai parlé d'Ebola que j'ai commencé. C'est vrai que ça, c'était peut-être les missions les plus difficiles. Donc, nous, avec ma collègue, on était ce qu'on appelle WATSAN, Water and Sanitation en anglais. Et sur les missions Ebola, on gérait notamment les corps, l'accès à l'eau potable pour les camps, mais aussi la gestion des corps. Et donc, ça, c'est vrai que c'était des missions où je suis parti deux fois à 25 ans, faire ça pendant 6 semaines à chaque fois.
Qu'est-ce que les
corps. La gestion des corps, c'est des gens d'Ebola ont géré les camps avec MSF.
Les camps?
Oui, les camps d'Ebola. Et du coup, quand les gens décédaient, nous, notre fonction, c'était d'y aller, de rentrer, d'aller les présenter aux familles, de gérer ce qu'on appelle le body management en anglais. Donc oui, c'était assez... Ça, c'était peut-être les missions les plus dures sur le plan psychologique, je veux dire. Et après, c'est toute la... Il y en a beaucoup. Je suis parti, moi, voilà, en me spécialisant dans la sécurité, je suis parti sur que des théâtres très violents. Donc, j'étais au Yémen aussi, au début de la guerre, où je faisais là, cette fois, log bateau avec MSF, où j'étais chargé de la gestion du bateau entre le Djibouti et le Yémen, où on amenait à Aden les médecins japonais, notamment de MSF, et les médicaments. Donc, toutes les semaines, on traversait la mer. Et là, pareil, au bout de deux semaines, on s'est fait bombarder le bateau, arrivé sur le port d'Aden pour des problèmes de... accès humanitaire et de négociations qui ont pas été en avant, mais c'était aussi ça, pas mal d'actions. Et après, enfin, une année en 2018 en Syrie, dans le Rojava, le Kurdistan syrien, là aussi très près des lignes de front de Daesh à l'époque, arrivé deux mois après la libération de Raqqa, leur capitale, en décembre. Il y avait des images qui restent, et donc ça fait partie aussi du métier, mais c'est pour ça que maintenant on est beaucoup aider pour en parler, et le fait de parler aussi avec toi, ça permet de discuter, et c'est aussi pour ça qu'on fait ça. On en parlait avec MSF, c'est le témoignage. Donc c'est...
Et alors, le dernier témoignage en date, justement, c'est qui aujourd'hui met tout le monde en émoi de façon complètement justifiée, enfin, c'est ce qui se passe dramatiquement à Gaza. Tu peux nous dire donc dans quelles circonstances on t'a demandé d'aller là-bas et quelle fut ta fonction?
Ouais, tout à fait. Et bien, ça faisait 8 ans que j'étais pas parti avec Médecins Sans Frontières, mais bon, j'ai toujours des amis là-bas. Et en passant à Paris par hasard, j'ai rencontré mon ami qui est responsable du recrutement des logisticiens d'urgence, et elle m'a dit moi j'ai toujours été intéressé par la Palestine et j'ai jamais pu y aller. Et elle m'a dit, messieurs, là, il y a Gaza, et niveau sécurité, il y a pas mal de boulot. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Je suis parti officiellement en tant que logisticien encore, parce qu'ils ont, comme je t'avais dit, pas la fonction sécurité. Mais vraiment, on est parti avec deux expatriés à l'époque, logisticiens sur le terrain. Donc il y en a un qui faisait vraiment tout le côté logistique, et moi j'étais vraiment sur le côté sécurité, c'est-à-dire on gérait les communications avec l'armée israélienne et comment on suivait nos mouvements. C'était vraiment un peu un cauchemar là-bas au niveau télécommunications, tout ça. Donc je suis parti sur ce travail-là pendant 3 semaines en février 2024.
Et alors, comment ça s'est passé très concrètement ?
Eh bien, très concrètement, j'ai eu plaisir à MSF. Vous imaginez que c'est vraiment une ONG qui, une grosse organisation, très bien huilée. Donc on est arrivé, ça s'est décidé en moins de 5 jours quand ils m'ont annoncé que, une fois que je dis oui, que j'étais prêt pour partir. Donc 5 jours après, ils m'ont appelé pour partir. Ils nous ont vraiment cette fois préparé psychologiquement, même trop, pour certains expatriés qui ont dû faire leur testament, qui pensaient vraiment. On nous a dit que c'était la mission MSF, c'était leur discours en interne, c'était la mission la plus difficile qu'on ait jamais vue. Le type de blessure, l'état des blessures, ce qu'on va voir, ça va être. Donc pour ça, ils nous préparaient vraiment psychologiquement à préparer nos familles, à nous envoyer un papier à signer pour voir. Donc c'était, moi j'ai trouvé que j'ai jamais eu ça par mon Ebola, quoi. Donc je me suis vraiment dit que ça allait être très difficile, préparer psychologiquement. Et en arrivant là-bas, on arrive en Égypte. Donc on est pris en place. Il y a MSF, ce qu'on appelle un mouvement, donc il y a plusieurs sections, il y a des Belges, des Français, chacun est autonome sur le terrain, et des fois ils font sur des grosses missions de ce qu'on appelle l'intersection. Donc là, au Caire, à la capitale égyptienne, il y a une intersection qui est là, et toutes les équipes préparent toutes les sections qui passent, les Espagnols, les Français, pour aller sur le terrain. Et donc là, ils nous donnent un sac de voyage, déjà tout rempli, on a 2 jours de briefing qui nous explique comment on va faire pour la traverser, donc par la route, par le Mont Sinaï, ou qui n'ont jamais vu un expatrié depuis 20 ans, qui est une zone très militarisée. Et exceptionnellement, MSF et les ONG et les Nations Unies avaient l'accord de passer par le Mont Sinaï pour entrer dans le sud de Rafah, qui est Rafah, la ville aussi égyptienne. J'ai une ville qui s'appelle Rafah et qui est coupée en deux. Il y a Rafah palestinien et le Rafah égyptien. Donc voilà, ils nous ont préparé pendant 2 jours les assiettes, comme si on partait vraiment en camping parce qu'on n'allait rien avoir sur place. Ils ont vraiment insisté, on n'aura rien, rien, rien. Et après, 2 jours de briefing, 15 heures de route, et on arrive dans le chaos de la Palestine, de Gaza.
Et alors ce chaos, justement, ça ressemble à quoi, ce chaos ? Et comment on se le prend en pleine figure, quoi ?
Du coup, j'ai vu des zones de guerre, et comme je te dis, je suis allé dans des endroits difficile, donc j'ai vu des choses pires. Ma mission, je pensais que ça allait être sur le point vraiment de la mission, de ce qu'on a vu. En fait, quand on arrive, ce qui m'a le plus choqué, moi qui viens de Lugasson, un village de 180 habitants, je sais pas combien on est au kilomètre carré, c'est le monde. C'est à Rafah, c'est 1,5 million de personnes sur ce que j'appelle la taille du canton de Lugasson. Moi qui aime bien les espaces, là, il y a du monde partout, tout le temps, partout, sur la route, c'est une marée humaine qui est entassée contre le mur. Il y a aussi ce mur que moi j'avais entendu parler du mur en Israël, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi un mur côté égyptien. Donc tu as aussi ce grand mur avec plein de miradors tout le long. Et tous ces gens qui sont ramassés dans des tentes, des bâches plastiques, sous des toiles plastiques, et qui sont en attente, et beaucoup d'enfants, beaucoup, beaucoup d'enfants dans les rues, et qui vendent tous les conserves au bord des routes. C'est plein de petites tentes, je te montrerai des vidéos si tu veux. Plein de petites stands de la nourriture, de l'aide humanitaire qui est notamment détournée, parce que c'est des choses qui sont données, qui vont à vendre, mais les gens sont dans un vrai dénuement, un total dénuement.
Et donc ça, on est en février.
Oui, tout à fait.
Ouais, on est en février, c'est pas encore. Enfin, ils sont déjà quasiment tous là, quoi.
On est déjà tous, oui, tout le monde est déjà arrivé à Rafah parce qu'ils ont déjà demandé. Khan Younes est donc juste au nord et sous les bombes déjà. Gaza City est anéanti, mais tout le monde est déjà à Rafah. Là, ce qu'on entend récemment là en mai, c'est qu'ils ont commencé là hier ou avant-hier à bombarder le côté est, ce qui était déjà le cas. Ils bombardaient régulièrement, donc on y était. Mais là, ils ont demandé un ordre d'évacuation, donc ils ont accéléré les bombardements, mais qui avaient lieu quand nous on y était tous les jours. Donc après, une fois que nous on s'installe, les humanitaires, MSF, les Nations Unies, on est Al-Mawasi, ce qu'on appelle le quartier qui est au bord de la plage. qui est dit plus, qui est dit safe, qui est dit sécurisé, en sachant que ce qu'on apprend aussi rapidement à Gaza, c'est qu'il n'y a rien qui est sécurisé.
Vraiment,
ouais. Ça... Mais c'est officiellement la zone sûre, notamment parce que c'est la plage et qu'il n'y a pas de tunnel dans le sable, c'est ce que j'apprends. On ne peut pas creuser des tunnels dans le sable, donc il y a peu de chances que le Hamas soit dessous, donc il y a peu de chances qu'Israël soit intéressé pour soit bombarder, soit même venir sur place. Parce que ça, c'était la ligne rouge de MSF, c'est que les bombardements, nous, ils sont quotidiens et tout le temps. Quand on est là-bas, il y a des drones qui volent 24 heures sur 24, on entend... un moteur d'avion tout le temps et ça tape dur le soir, donc on a les bateaux par exemple le long de la mer, on a les bateaux de guerre israéliens qui torpillent, on a les hélicos qui torpillent, on a les avions de chasse qui torpillent, on a tout qui torpille. Mais quand ils font ça à distance, ils sont assez précis, et si vraiment, moi je l'ai, enfin on l'a vu, s'ils veulent détruire un étage d'un immeuble, ils détruisent l'étage de l'immeuble et ils iront pas détruire tout le monde à la ronde. Le problème, ce que MSF a vu, et en tant que c'est quand c'est les soldats, c'est les troupes au sol qui, même nous qui étions en contact du coup quotidiennement via notre équipe MSF à Jérusalem en coordination, tous les matins, moi mon métier, par exemple, mon travail, une de mes tâches c'était d'annoncer où on allait. Tous nos mouvements, on avait 6 véhicules, donc nous on habitait à Al-Mawassi, près de la plage, et on avait un hôpital. Et tous les jours, en limite c'était ça, il y avait 3 km et on mettait 1h30, 2h pour rouler au pas à pas entre tous les gens qui étaient là. Et c'était d'annoncer donc aux Israéliens où on allait, on devait envoyer ça, Jérusalem coordonné, ce qu'on appelle, faisait des mouvements coordonnés, tous les humanitaires faisaient ça, pour être sûr qu'on nous tire pas dessus ou qu'on nous bombarde pas, même si chaque retour de message, de mail automatique par les Israéliens était que cela ne garantissait en rien notre sécurité, le fait d'annoncer où on allait.
Et en effet, parce qu'il y a eu quand même énormément d'humanitaires
plus tard, dans tout cette à fait. Histoire. Récemment, là, notamment avec World Kitchen, qui était très présente et qui est très présente là-bas, qui se sont fait bombarder. Et que moi, quand j'étais, ils ont tué des staffs MSF nationaux. Donc, c'est là où je reviens sur quand ils arrivent au sol. C'était la ligne rouge de MSF, c'est que si on a des troupes au sol ou des tanks qui arrivent, ça, nous, on évacuait parce qu'on était vraiment, quand on arrive, c'est le chaos. Et c'est aussi, est-ce que Rafah va être attaqué? Donc, ça dure depuis, moi, quand j'étais février, qui est encore le cas maintenant. Et où est-ce qu'on va faire une trêve? C'était toujours, tous les jours. Tous les jours, la population aussi, entre espoir et désespoir, entre on va s'arrêter, on va... Et même nous, donc nous, la ligne rouge était, on doit évacuer, on va partir. Dès le premier jour, on m'a dit, peut-être tu repars demain, quoi. Parce que la guerre, enfin, c'est vraiment là-bas, c'est un contexte qui change tellement rapidement et qu'il n'y a aucun endroit sécurisé, malgré voilà, des endroits comme j'étais en Syrie. En Syrie, pendant un an, on sait où sont les endroits sûrs, on sait où on peut... Enfin, là, c'était vraiment tellement concentré dans un espace si petit... C'est très difficile d'être en sécurité.
Et comment on fait pour garder la tête sur les épaules, si j'ose dire, face à cette violence quotidienne?
C'est simple, on est avec les Palestiniens. Et j'ai rencontré ce peuple dont j'avais beaucoup entendu parler. Encore une fois, j'ai vu des peuples résilients comme les Congolais du Kivu, les Kurdes, mais les Palestiniens, c'est le niveau au-dessus. Ils sont d'une détermination sans faille et eux, ils gardent le calme. En fait, c'est incroyable. C'est ça le plus dur, nous, parce qu'on est impuissants. Et c'est l'humanitaire, c'est souvent le cas. Mais alors là, Gaza, c'est vraiment... On met un pansement sur une jambe de bois. On écope le bateau dans la mer. Et les Palestiniens, pour eux, les collègues, et MSF, c'est là où j'ai aimé retourner avec eux, parce que ça fait 20 ans qu'ils sont sur la bande de Gaza. Tout le monde connaît Docteur Sans Frontières. Et les gens qui sont là, ça fait 20 ans qu'ils travaillent pour MSF, et ils restent pour nous, quoi. Enfin, ils restent pour aider l'autre. Quand ils nous disent, en fait, ils nous remercient de venir. Enfin, moi, je nous remercie de venir. Je reste 3 semaines. C'est limite indécent. Des fois, l'impression de se sentir, et ça, c'est le côté humanitaire, mais d'être un tourisme en balade. Et eux, ils sont là, mais bloqués à vie. Et ils nous disent, moi, si c'est incroyable, merci pour ce que tu fais, d'avoir quitté ta famille, venir nous aider, ça compte beaucoup. Moi, je sais pas si je l'aurais fait à ta place. Et donc, c'est ça, c'est ces collègues qui gardent toujours le sourire, malgré des histoires, enfin, les plus horribles les unes après les autres. Tous les matins, on arrive, c'est des morts autour de nous, des collègues qui sont plus là, des histoires. Donc, ça, c'est très difficile à entendre. Mais on continue parce que, encore une fois, on voit que ce qu'on fait, c'est important. Et MSF, là, dans ce cas, il faisait un hôpital de ce qu'on appelle pas en, en première ligne, donc on n'avait pas, c'est pour ça que c'était moins dur ce que j'attendais, comme je te disais, parce que on prenait pas les blessés en direct comme on voit dans les médias où c'est très dur. Nous, c'était un hôpital de référencement, donc c'était un autre hôpital qui nous envoyait. Donc on avait 60 lits et bon voilà, tous les gens étaient, c'était tous des amputations, donc tous des enfants ou beaucoup d'enfants et des brûlés, beaucoup de brûlures aussi, mais ils étaient, tu vois, déjà en soins, donc c'était moins violent émotionnellement à vivre, même si voilà, ils étaient là pour et on les aidait, et c'était quand même assez incroyable de faire ça.
Et comment tu fais quand tu reviens là à Lubiana pour digérer tout ça?
Ah, ça c'est une longue expérience, je veux dire, je suis pas si vieux, mais comme je te disais, en fait, j'ai commencé à 25 ans, j'ai commencé à voyager à 20 ans. À 20 ans, je suis parti chez les Pygmées, 2 mois dans la forêt, alors que je vivais très, très bien ici. Quand tu reviens, t'as un petit décalage, quoi, donc j'ai vite appris à alterner, à jongler avec ces deux vies, et donc quand je reviens, moi, c'est ici ce que j'appelle mon lieu refuge. Je crée une ferme collective et diversifiée avec des amis. Je me crée un petit hameau de paix. Et c'est pour ça que ça demande une petite phase de transition. Mais maintenant, je suis heureux d'être ici. Quand je rentre, voilà, je sépare. Parce que si tu y penses, et quand, là, Gaza, c'est une des contextes qui prend trip. Les gens, ils nous écrivent, les collègues, ce que je fais rarement avec d'autres pays où je suis resté. Mais là, tu suis, tu as envie de voir comment... Mais, c'est l'impuissance, ça, c'est très dur de... Et ça, c'est pour tout le monde, et plein d'amis ici qui me disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait, nous ?» Et c'est vrai que ça, c'est... Même quand on est là-bas, c'est que politique, malheureusement.
Et tu peux repartir du jour au lendemain?
Et oui, comme je te disais, tout à fait, ouais. Donc MSF te propose souvent de repartir. Il n'y a pas beaucoup de monde, bizarrement, cette